Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, à Sochaux et ailleurs. Ravi de vous retrouver pour Culture Média au menu Média et Culture au sens large. Aujourd'hui, littérature avec Nicolas Carreau et Olivier Benkemoun va nous parler du film Hors Normes de Cannes qui sort aujourd'hui dans toute la France et Coupé de Michel Hazanavicius. Vous retrouverez aussi par ordre d'apparition Louise Bernard pour le journal des médias et les audiences télé d'hier soir, Bruno Donnet pour ses télescopages et en fin d'émission Marc-Antoine Lebray et ses stories. Notre info média se projette sur l'une des promesses de campagne du président Macron, la suppression de la redevance audiovisuelle. Ce sera effectif dès cette année, c'est même une décision du tout dernier conseil des ministres du gouvernement Castex la semaine dernière. Cela inquiète les journalistes du service public. Comment garantir l'indépendance de l'information vis-à-vis du pouvoir et surtout, quel financement désormais pour l'audiovisuel public. On en parle, que dis-je, on en débat avec Céline Calvez, députée la REM des Hauts-de-Seine, en charge de ces questions pour la majorité, et le journaliste de France 3, Serge Thémineau, il est délégué syndical du SNJ France Télévisions. Nos invités ensuite, la journaliste Maya Loquet, elle a posé ses valises le week-end dans Télématin, mais elle se prête aussi samedi à un grand classique du service public, elle présente Tous prêts pour la dictée. Ça sera à 16h15 sur France 3. Elle sera là sans faute. Et oui, dictée, faute, humour. Enfin, il n'en manque pas, lui, vraiment, réellement d'humour. C'est l'écrivain Didier Von Kovelaert, prix Goncourt 94. On se penche sur son nouveau roman, Une vraie mère ou presque. Ça démarre très fort. En 3 mois, ma mère a perdu 11 points. Elle n'a jamais conduit aussi mal depuis qu'elle est morte. La suite, ça sera en deuxième heure de l'émission, car nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Et bonjour Louise Bernard.
Et bonjour Philippe Vandel, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias, Louise.
On connaît le nom du prochain invité de Rendez-vous en terre inconnue, un consultant de luxe pour France Télévisions, de la censure du côté du Festival de Cannes, le débat des législatives réservé aux insomniaques, vous comprendrez. Et puis on terminera en parlant d'un documentaire sur les séparations, mais qui est touchant et drôle.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Ils ont regardé Koh-Lanta, l'émission a attiré 3 780 000 téléspectateurs, 18,1% de part d'audience devant TF1. Koh-Lanta qui remonte. La semaine dernière, l'émission avait réalisé son pire score de la saison. On n'est quand même pas encore sur les meilleurs scores qu'a connu l'émission, évidemment. Deuxième, France 3 avec La Doc et le Veto. En fait, c'est une série. Il y avait eu un premier téléfilm avec Michel Simès notamment.
C'était un test.
Qui avait très bien marché. Et cette fois-ci, ça a attiré 3 650 000 téléspectateurs, 17,7% de part d'audience. Ça reste un bon score, ça n'est pas autant que la première fois où c'était 4 680 000. Il y a 1 million de personnes en moins. Est-ce que la série reviendra ? On vous le dira.
Mais c'est un très bon score vu la météo.
Oui, exactement. Toujours parce que
Culture Média.
On le dit cette semaine, on m'a coupé en plein dans mes audiences. Je vous donne quand même le numéro 3, c'est 911 sur M6, le début de la saison 5 qui est en dessous de sa moyenne, 1 870 000 téléspectateurs, 9,2% de part d'audience. Voilà pour les audiences. Je pense qu'on a trop traîné, il n'y avait plus assez de jingle.
Ouais, attention, virgule.
Europe 1, Culture Média.
On y arrive, on commence, c'est Sochaux qui nous perturbe. On commence ce journal des médias avec le nom du prochain invité de l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue.
C'est l'humoriste Jarry qui vient de s'envoler pour 3 semaines avec le présentateur Raphaël de Casabianca. Et on connaît aussi leur destination, le Groenland.
Oh.
C'est une... Oui, en pleine canicule.
J'arrive au Groenland, j'ai envie de voir ça.
C'est une première dans l'émission. Ils vont aller dans le village le plus au nord de la planète, à 1300 km du pôle Nord seulement, pour rencontrer les Inuits. Un peu de patience avant de découvrir cette émission à l'antenne. France 2 va d'abord diffuser celle tournée avec le chanteur Oli du groupe Big Flo et Oli, qui est parti, lui, à Madagascar.
Retour en France, Richard Gasquet rejoint France Télévisions comme consultant.
C'est une première pour le tennisman français, première fois en tant que consultant. C'est le magazine Stade 2 qui l'a annoncé dimanche soir. Le service public profitera donc de son expertise le temps du tournoi Roland-Garros qui commence dimanche, mais avec une particularité et pas des moindres, il ne sera pas là les premiers jours puisqu'il va lui-même jouer. Il n'est pas encore retraité, il rejoindra l'équipe des consultants une fois éliminé. Donc ça veut dire que France Télévisions compte quand même sur son élimination, c'est un peu triste. Et d'après le site Pure Média, il interviendra alors quotidiennement sur la terrasse auprès du présentateur Laurent Luyat.
On quitte Roland-Garros pour Cannes. Le festival est accusé d'avoir censuré une interview de son directeur Thierry Frémaux.
Longtemps bastion de la liberté artistique, le festival de Cannes a un secret. Il censure les interviews du directeur du festival. C'est par ces mots que le site américain Deadline raconte sa mésaventure à ses lecteurs. Il leur explique pourquoi il a décidé de ne pas publier du tout cette interview. Il préfère en raconter les coulisses. Deadline s'étonne déjà que le festival ait accordé cet entretien à condition de pouvoir le relire, ce qui n'est jamais arrivé avec aucun autre festival d'après le média américain. L'argument du service de presse, c'était de s'assurer de la bonne retranscription des propos. Pourquoi pas ? Mais, d'après Deadline, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Le festival a voulu couper des passages jugés sensibles, matière à polémique, notamment quand Thierry Frémaux parlait du très controversé réalisateur Roman Polanski et sous-entendait qu'il n'y aurait pas de problème éthique à l'accueillir au festival. Une autre réponse sur le manque de réalisatrices femmes a également été censurée. Des demandes qui étonnent d'autant plus le site américain, puisque l'interview avec Thierry Frémaux se serait très bien passée, dans une ambiance décontractée, toujours d'après Deadline. Non seulement le média dénonce ses pratiques, mais il reproche aussi aux autres journalistes de ne pas s'insurger, d'autant plus qu'il dit avoir connaissance d'un autre cas de censure. Une réponse sur le manque de réalisateurs noirs aurait été coupée d'un article d'un autre média, non cité. Et le journaliste finit son article en ressortant une vieille citation de Thierry Frémaux. Un grand festival est un festival libre. La liberté d'expression est essentielle pour en assurer la grandeur. Fin de citation. Et Deadline rajoute, il en va de même pour la presse.
Un syndicat de journalistes de France Télévisions en colère contre les horaires annoncés de diffusion des débats des législatives de ce soir.
À France 3, seuls les insomniaques ont le droit au débat. Voilà ce qu'a écrit le SNJ de France Télé dans un communiqué. Une formule pour dénoncer la diffusion de ces débats régionaux en deuxième partie de soirée seulement, donc à des heures très tardives, à partir de 23h15 pour le premier, puis après minuit pour le second. Les mêmes horaires sont d'ailleurs prévus pour les prochains débats, le 25 mai et le 1er juin. Des horaires qui vont à l'encontre de la mission d'information du service public, selon le SNJ, qui appelle au respect des citoyens qui payent toujours une redevance pour prétendre à une information complète et surtout à une heure décente.
Et on posera la question à notre prochain invité pour l'info média du jour, parce que c'est Serge Siminaud qui est délégué syndical du SNJ de France Télévisions. Il est venu parler de la redevance, mais on lui posera une question évidemment sur ce sujet. On termine, Louise, avec le focus programme du jour. C'est un documentaire diffusé ce soir sur France 2, La Dispute.
Comment les enfants racontent-ils la séparation de leurs parents? Qu'ont-ils compris? Comment leur a-t-on annoncé? Et comment le vivent-ils quand les parents refont leur vie? Toutes ces questions ont été abordées dans ce documentaire, touchant et souvent drôle, grâce à la sincérité désarmante des enfants.
C'est toujours ma mère qui tire des schémas incompréhensibles. Comme mon père rentre toujours tard parce qu'il est avec une autre fille, alors qu'il rentre toujours tard parce qu'il est soit dans l'avion, soit dans le train, soit au bureau. Ça, tout le monde le sait, mais ma mère, elle est genre « Non, je ne veux rien savoir, il m'a trahi ».
Le réalisateur Mohamed El Radib les a filmés et interviewés pendant 2 ans. Tous ont entre 7 et 10 ans et tout est parti d'un projet de théâtre. Il devait en fait créer une pièce pour enfants. Alors pour avoir une idée de sujet, il est allé dans les écoles, à la rencontre des enfants, découvrir leurs préoccupations. Et ce qui est le plus revenu, c'est l'organisation de la vie familiale quand les parents sont séparés. C'était le cas d'environ la moitié des enfants. Alors après réflexion, Mohamed El Radib s'est dit qu'on traitait souvent le sujet de la séparation par le prisme des parents, des psys, des juges, mais on donne rarement la parole aux enfants. Alors c'est ce qu'il a fait et ses enfants l'ont étonné, c'est ce qu'il m'a raconté.
Ce qui m'a frappé, c'est la liberté avec laquelle les enfants s'expriment, leur sincérité, l'authenticité avec laquelle ils parlent de façon extrêmement simple, extrêmement directe, dans une langue qui n'est absolument pas formatée. Il y a cette liberté-là. Et puis ce qui m'a frappé aussi, c'est la lucidité. C'est-à-dire comment des très jeunes enfants de 7, 8, 9 ans voient absolument tout, se rendent compte de tout. Et sentent que quand il n'y a plus d'amour entre les parents, quand il y a moins de tendresse, ça, ils arrivent à déceler tous les signes avant-coureurs de la séparation. Et ça m'a frappé.
C'est vrai que c'est très étonnant à découvrir dans ce documentaire. Et les parents n'en sont néanmoins pas totalement absents. Hein. Mais ce n'est pas le réalisateur qui les interviewe, ce sont les enfants.
Pour moi, c'est un des basculements importants dans ce film. C'est le moment où les enfants m'ont dit « Nous, on parle tout le temps, il y en a marre. Maintenant, c'est aux parents de parler. » C'est à eux de mettre des mots aussi, donc on va aller interviewer les parents et d'un coup ils se sont retrouvés désarçonnés devant des questions qui sont des questions gênantes, des questions intimes, indiscrètes, mais avec laquelle on ne peut pas faire de langue de bois, donc il a fallu apporter des réponses. Et c'est extrêmement touchant de voir les parents se débattre là, devant les enfants et de devoir expliquer, quoi. Expliquer ce qu'est une séparation, expliquer les raisons pour lesquelles on se sépare, comment l'amour continue, comment on refait sa vie et comment on se préoccupe de la façon dont les enfants refont aussi leur vie.
Ils ont beaucoup plus de mal à parler, les parents, que les enfants. Vous pourrez le découvrir ce soir dans ce documentaire infrarouge La Dispute qui est diffusé à 23h sur France 2.
Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite, c'est sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, sur Europe, notre info média du jour, un bouleversement annoncé dans le financement des médias publics en France, la fin de la redevance audiovisuelle. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. On a appris qu'elle serait effective dès cette année si la majorité remporte les prochaines législatives. Alors, quel avenir pour l'audiovisuel public? On en débat avec la députée la REM, La République En Marche, Céline Calvez, et le délégué syndical de SNJ France Télévisions, Serge Simino. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
C'était une promesse de campagne du candidat Macron, aujourd'hui président réélu, la suppression de la redevance audiovisuelle de 138 euros. Mesure guidée par une envie de redonner plus de pouvoir d'achat aux Français, mais qui inquiète les salariés des médias publics et en particulier les journalistes. Quels moyens pour le service public alors, qui se prive d'une entrée d'argent de 3,8 milliards d'euros, et quelle indépendance vis-à-vis du pouvoir en place si celui-ci est son financeur direct? Les réponses à ces questions, il va falloir les trouver rapidement, car surprise, le compte-rendu du tout dernier Conseil des ministres du gouvernement Castex, qui se déroulait il y a une semaine seulement, contenait une annonce, celle de supprimer la contribution à l'audiovisuel public dès cette année. Est-ce qu'il y avait urgence? On va poser la question à nos deux invités. Bonjour Céline Calvez.
Bonjour.
Vous êtes députée des Hauts-de-Seine, coordinatrice du groupe La REM au sein des affaires culturelles et de l'éducation. Vous travaillez justement sur les pistes pour remplacer cette redevance et c'est pour cela qu'on voulait entendre votre voix ce matin. Et vous êtes par ailleurs, et c'est important, membre du conseil d'administration de Radio France. Serge Simino, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste politique à France 3, délégué syndical du SNJ France Télévisions. SNJ, c'est le syndicat national des journalistes et vous avez également été deux fois candidat à la présidence de France Télé. Je commence par vous, Céline Calvez. Quel est le but, la question que les gens se posent, quel est le but de cette suppression annoncée? Est-ce que c'est faire gagner du pouvoir d'achat aux Français ou modifier la philosophie même du financement, pardon, du service public?
En fait, c'est, vous l'avez dit, c'est en raison du pouvoir d'achat. Et quand le président de la République, au cours de la campagne, l'annonce, c'est dans une séquence à Poissy où il consacre les façons dont on va pouvoir augmenter encore plus le pouvoir d'achat des Français. Donc, il faut rappeler qu'avec une mesure qui a fait gagner du pouvoir d'achat durant ce dernier quinquennat, qui est la suppression de la taxe d'habitation, eh bien, on a un véhicule qui disparaît. C'est-à-dire que l'année prochaine, plus personne ne payera de taxe d'habitation. Or, la redevance était prélevée avec la taxe d'habitation. Donc vous voyez que vous aviez un véhicule qui n'existe plus. Alors on pourrait se dire on maintient la redevance, pourquoi pas, mais ça veut dire que les frais de prélèvement peuvent être assez conséquents. Eh bien si on en profitait plutôt pour revoir le système de financement. L'idée ce n'est pas de supprimer le financement de l'audiovisuel public, mais c'est sans doute aussi pouvoir le rendre un peu plus conforme aux usages des uns et des autres. Aujourd'hui, c'est 138 euros qui sont payés par 28 millions de foyers. Or, vous en avez sans doute un peu plus qui écoutent ce qu'ils ne considèrent pas encore comme de l'audiovisuel public. Or, c'est de l'audiovisuel public. Quand on parle de redevance télé, on est à côté parce que c'est aussi l'audiovisuel, la radio. Et donc, souvent, on utilise et on écoute et on regarde l'audiovisuel public sans le savoir. On a des CSP, des catégories socio-professionnelles, qui écoutent beaucoup la radio, par exemple, mais qui ne payent pas la redevance télé. Est-ce que c'est normal? Non. Donc, c'est plutôt dans cet ordre d'idées qu'il faut pouvoir considérer. C'est une mesure de pouvoir d'achat, mais on s'engage aussi à rendre plus clair et plus lisible ce qu'est l'audiovisuel public dans nos vies.
Avant que je donne la parole à Serge Simino, question additionnelle. Est-ce qu'il y avait urgence à aller si vite?
Mais en fait, il y a urgence sur le pouvoir d'achat. On est aujourd'hui capable de pouvoir supprimer cette redevance dès cette année. Pourquoi? Parce que au sein du projet de loi de finances, enfin de la loi de finances qu'on a votée pour 2022, on a une mission budgétaire, moi que je suis depuis 4 ans, qui s'appelle concours financier à l'audiovisuel public. C'est une avance à l'audiovisuel public. Donc déjà, dans le projet de loi de finances, dans la loi de finances qu'on a utilisée pour 2022, il y a ces 3,8 milliards. Donc en fait, simplement, on va garder cette avance et à nous de trouver la façon dont on va répartir les uns les autres. Mais il n'y a pas de menace sur le financement de cette année pour l'audiovisuel public.
Avant qu'on parle du financement, Serge Simino, réaction à ce que vient de dire Céline Calvez.
Ben, vous avez entendu pendant la campagne, le président de la République avait ressuscité l'esprit de Gérard Majax, hein, qui d'ailleurs est toujours vivant, pour ceux qui ne le savaient pas.
On s'en souvient.
Et c'est donc un tour de passe-passe. Vous parlez du pouvoir d'achat. Je vais prendre cet argument-là. 11,50 € par mois économisés. Alors je ne dis pas que pour certains foyers, ce ne soit pas une économie. Pour autant, augmenter les salaires, ayez des vraies mesures de pouvoir d'achat. On voit bien que cette idée de supprimer la redevance, c'est une façon d'affaiblir le service public. La dernière personne qui a fait ça, c'est M. Sarkozy en 2008, qui avait fait deux annonces importantes dans une conférence de presse. Car là, c'est du sérieux. Et la deuxième, c'était la suppression de la publicité. Compensé à l'euro près.
Sur le service public avant 20h.
Voilà, avant 20h.
Compensé
après 20h. Compensé à l'euro près. C'est ça qui est important. Ce n'est pas l'horaire, c'est compensé à l'euro près. Vous le savez très bien, vous êtes une spécialiste de la chose. Ce n'est toujours pas compensé. Et cette perte, on continue à l'avoir. Et tous les ans, et entre autres M. Macron a commencé en 2017, on demande des efforts à France Télévisions. En ce moment, et j'en finirai sur cet aspect-là, on est dans un plan, une rupture conventionnelle collective qui fait que près de 2000 collaborateurs vont quitter l'entreprise. Et on nous parle toujours, lorsqu'on est au pouvoir, du mammouth, de la machine qu'on ne réforme pas, pareil pour Radio France, mais les 3,8 milliards, bon, ça dépend des fois. Vous dites, c'est injuste parce que des gens qui regardent ou qui écoutent la télé ou la radio ne se rendent pas compte que c'est le service public. Ben pourquoi ne pas élargir l'assiette? Pourquoi pas faire une vraie réforme sur les smartphones et les tablettes sur laquelle tous les pouvoirs politiques ont reculé? Donc, je termine, Monsieur Vandel. C'est une façon d'affaiblir le service public parce que les 3,8 milliards, on n'est absolument pas sûr qu'ils soient pérennisés dans un budget. Dernier point, le pouvoir d'achat. Vous enlevez 11,50 euros par mois. Comment est financé le budget de l'État? Par l'impôt. Voilà le tour de passe-passe et je salue Gérard Majax.
Alors, sur le financement, moi je vais revenir sur ce qu'est l'audiovisuel public et effectivement, moi je regrette que ça ne soit pas encore assez compris de la part des Français parce que c'est un bien public. Quand on voit, quand on est dans une guerre d'information et on l'a vu et on le voit encore récemment sur la scène internationale, on a besoin d'un audiovisuel public fort. Ça fait partie de choses aussi stratégiques que sont la recherche ou que sont la défense. L'audiovisuel public, c'est une défense pour notre information. Il faut vraiment en prendre conscience. Donc, on investit dedans. On investit à hauteur de 3,8 milliards. Mmh. Et donc, il n'est pas question d'aller à l'encontre. Mais sur la façon dont doit reposer la contribution
de chacun...
Vous pouvez nous
assurer 3,8 milliards jusqu'à la fin des temps?
Mais jusqu'à la fin des temps, je ne peux pas vous le dire.
La question qui se pose,
dans
le budget d'État, au moins pour les 5 ans, si par hasard vous gagnez
la question qui se pose, c'est que jusqu'ici, la redevance, elle n'assurait en rien la pérennité de financement de l'audiovisuel public, puisqu'elle a été revue. Elle a été revue chaque année, vous êtes d'accord?
Non, mais donc, si vous l'enlevez, c'est même plus la peine
de pérennité. Je veux dire que par rapport à...
3 milliards à, par an, pardon, mais
par rapport
si les gens
à
se rendent
l'avant
compte, c'est
et à l'état actuel, c'est aussi... enfin, il n'y a pas de prévision à long terme du financement de l'audiovisuel public, puisqu'il est revu chaque année.
Donc
vous êtes d'accord.
D'accord, vous ne pouvez pas donc, nous assurer en fait, 3 milliards tous
pas,
les ans.
Nous ne sommes pas, plus ou moins qu'avant. Nous sommes en train de dire que le Parlement votait chaque année des concours. Nous avons pu montrer que la redevance pouvait être baissée, puisque nous l'avons baissée de 139 à 138 euros il y a 2 ans. Donc en fait, cette espèce de fétichisme autour de la redevance, je trouve, n'est pas forcément
le plus. Fétichisme sur la redevance,
ce que je veux.
Oui, merci, monsieur.
Non, mais si, je vous réponds.
Si on s'interrompt, juste un mot.
Non, juste un mot pour que la parole circule.
Mais oui, le fétichisme, c'est sur le budget, pas sur la redevance.
Si c'est un bien public, et j'en reviens là-dessus avant que vous m'interrompiez, eh bien en fait chacun des Français devrait, peu importe qu'il utilise un téléviseur ou pas un téléviseur, devrait pouvoir y contribuer à la hauteur de ses moyens. Parce que quand vous avez par exemple le budget de l'éducation nationale, eh bien il est assuré par l'impôt. Et que j'ai des enfants ou pas, j'y contribue selon ce que je paye comme impôt. Eh bien moi j'aimerais bien qu'on considère aussi que la budgétisation actuelle du financement, enfin à venir du financement de l'audiovisuel public, permet aussi de rendre davantage prégnant le rôle de l'audiovisuel public. C'est aussi important que l'éducation et la recherche. Maintenant, je vous rejoins, j'aimerais qu'on puisse bénéficier d'une loi de programmation pluriannuelle qui nous permette de faire, comme on l'a fait pour la recherche l'année dernière, eh bien qu'on puisse voir quelles sont les mesures d'investissement que l'on doit faire. Parce que dans les métiers de l'audiovisuel, on ne peut pas simplement avoir une courte vue et on a besoin, quand
Céline
on fait un
Calvez.
Programme, il est diffusé 18 mois ou 2 ans après.
Céline Calvez, il n'y a pas de redevance à Europe 1, on est obligé de marquer une pause, vous allez comprendre pourquoi. On revient tout de suite dans ce débat. Serge Simino, qu'on aimerait bien entendre, à tout de suite. Culture Média continue.
11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
La suppression de la redevance, c'était une promesse de campagne du président Macron et ce fut l'une des dernières décisions prises au dernier Conseil des ministres du gouvernement Castex. Nous en parlons avec Céline Calvez, elle est députée LREM Hauts-de-Seine. Elle travaille justement sur le remplacement de cette redevance. Et Serge Simino, délégué syndical SNJ France Télévisions, le SNJ vent debout contre cette suppression. Thème porté par les candidats de la droite et de l'extrême droite durant la campagne, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour, et surprise, lors de son tout premier déplacement de campagne à Poissy, le candidat Macron reprend également cette proposition. Nous sommes alors le 7 mars.
Le pouvoir d'achat, mesuré par l'INSEE dans ses derniers chiffres, est supérieur durant ce quinquennat aux 10 années qui précédaient. Mais on doit continuer ce travail pour que le travail paye mieux. Comment ? On supprimera des impôts qui restent. La redevance télé en fait partie. C'est 137 euros environ en moyenne par là aussi cet aveu que c'est cohérent avec la suppression de la taxe d'habitation, il faut aller au bout.
Au passage, Emmanuel Macron cite le chiffre de 137 euros, c'est 138, mais Serge Siminaud, je voudrais vous entendre sur les arguments avancés par Céline Calvez, vous n'étiez pas d'accord, vous aviez beaucoup de choses à dire.
Bien évidemment, parce que c'est bien que vous ayez passé cet extrait, on l'a appris ce jour-là. Apparemment, beaucoup de députés l'ont appris aussi, beaucoup de gens l'ont appris aussi ce jour-là. Parce que Emmanuel Macron gouverne seul. Et sur ce sujet-là, par exemple, vous m'invitez, il aurait pu très bien nous en parler. Il y a des organisations syndicales, alors je sais qu'il est un petit peu allergique au corps intermédiaire, mais voilà dans quoi on est. C'est-à-dire qu'on se sert de la redevance, en l'occurrence, puisque c'est le débat d'aujourd'hui, comme un élément du paquet pouvoir d'achat qui sera proposé en juillet. Et je le rappelle...
Vous voulez dire que c'est démagogique, comme mesure annoncée ?
Et moi, j'ai une formule, alors qui ne va pas plaire à Madame la députée, mais je dis que défendre la redevance n'est certes pas populaire, mais vouloir la supprimer peut ressembler à du populisme. Pourquoi ? Parce qu'on donne raison. Par exemple, aux Gilets jaunes, qui, sur les ronds-points, vous avez dû en voir, disait « Vive le retour de la pub pour ne plus payer la redevance ». D'abord, ce n'est pas un impôt, c'est une contribution. Et vous avez parlé du Conseil des ministres tout à l'heure. Je vais quand même vous dire ce qui nous inquiète. Voilà comment ça a été annoncé le 11 mai dernier. La contribution audiovisuelle publique sera supprimée de manière pérenne, dès cette année, vous l'avez dit. Et le financement de l'audiovisuel public sera assuré dans le respect de l'objectif à valeur constitutionnelle au pluralisme d'indépendance des médias.
Que ça veut dire en français
courant ? Est-ce que vous entendez 3,8 milliards là ? Moi, je ne les entends pas. Et Madame Calvez, vous l'avez dit, vous aimeriez une loi qui permettrait de nous rassurer. Donc, on attend cette loi. Les 3,8 milliards, au moins pendant le quinquennat, et on verra quelle majorité sera élue le 20, mais en attendant, vous pouvez prendre des décisions, vous êtes encore au pouvoir. Nous, on vous dit à France Télévisions que comme la suppression de la publicité avant 20h, qui n'a pas été compensée à l'euro près, nous sommes inquiets. Et je termine, Monsieur Vandel, ce n'est pas que France Télévisions. Il faut rappeler que la redevance, c'est aussi Radio France, c'est aussi TV5 Monde, c'est Arte et c'est France Média Monde. Toutes ces entreprises-là sont inquiètes parce que nous n'avons pas confiance dès qu'on touche à l'audiovisuel public, c'est pour renier les moyens. Je ne dis pas qu'on en manque. Mais l'information, ça a un coût, vous le savez, vous connaissez le fonctionnement
Évidemment.
De la télévision. Et donc, quand vous dites que c'est un bien public, on veut des preuves d'amour, pas de l'amour, madame la députée.
Avant que vous répondiez, Céline Calvez, juste petite question, est-ce que vous étiez au courant que le président Macron allait faire cette annonce, la suppression de la redevance ?
Pas forcément ce jour-là.
Alors, répondez aux arguments.
Je vais répondre. Une des preuves d'amour que vous attendez, elle est déjà dans la loi de finances 2022, puisque l'audiovisuel est financé à hauteur de 3,8 milliards. En fait, c'est déjà dans la loi de finances. Ce que l'on va supprimer, par contre, c'est le fait de prélever auprès des 28 millions de foyers concernés les 138 euros. Aujourd'hui, ce que je vois, et quand on parle de visibilité pluriannuelle, c'est aussi peut-être de simplement sortir de la liste que vous venez de faire, justement, qui est la liste des sociétés d'audiovisuel public, pour se dire qu'il y a peut-être aussi davantage de synergies à faire, notamment sur la jeunesse ou sur le numérique. Il y a eu, depuis 2018, de fortes synergies qui ont été faites, ou même avant ça, avec la création de la chaîne France Info TV. Il y a eu vraiment des choses mises en place qui sont super. Oku, Lumni, qui réunissent quasiment l'ensemble des sociétés d'audiovisuel public. On pourrait très bien aussi se dire que si on est dans un objectif de pluriannualité, on arrive aussi à identifier des parts de financement qui sont sur ces parties-là. Et moi, je pense que ça nous permettrait de donner encore plus de visibilité aux missions de l'audiovisuel public. Elles sont là, elles sont faites. Mais parfois, on les ignore un peu. Moi, je pense que de les consacrer comme un bien public financé par l'impôt, par l'ensemble des Français, ça lui permet encore plus de la distinguer, de le consacrer.
Je vais être un peu technique. Vous aviez proposé dans le projet de loi de finances 2022, Céline Calvez, quatre principales pistes pour réformer la redevance, à choisir entre les quatre. Soit une contribution par foyer sans lien avec la détention ou non d'une télé, soit la transformation de la redevance en une taxe individuelle en fonction des revenus, comme cela se fait en Suède, soit une réforme paramétrique dans laquelle la redevance ne serait plus adossée à la taxe d'habitation. Quatrième solution proposée par vous, faire entrer le financement de l'audiovisuel public dans le budget de l'État. C'est cette dernière option qui a été retenue par le président. Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui a présidé à cette décision ?
Mais je pense que je vais revenir sur l'idée de consacrer l'audiovisuel public comme un bien public. Et donc, les biens publics, on les finance avec l'impôt. Et l'impôt, il a le mérite de quoi ? Eh bien, d'être progressif. C'est-à-dire que plutôt que chaque personne paye la même chose, on va faire selon ses moyens.
Moi, alors, comment expliquez-vous que ça ne rassure pas les syndicats ? Parce que ce que vous dites semble frapper du sceau du bon sens et tous les syndicats s'inquiètent.
C'est une mesure de pouvoir d'achat puisque tout le monde va payer l'impôt ?
Mais non, mais regardez. Non, alors, écoutez, la répartition aujourd'hui de ceux qui payent, par exemple, ça a été prouvé.
Tout le monde va payer l'impôt en fonction de ses revenus, non pas comme la TVA qui s'applique de la même façon.
Mais en quoi c'est une mesure de pouvoir d'achat ? C'est la question qui se pose.
Beaucoup de CSP+.
Puisqu'on le transfère sur un autre impôt.
Mais oui, mais justement, c'est pas réparti de la même façon. Beaucoup de CSP+ aujourd'hui ne payent pas la redevance. Parce que déclare ne pas avoir de télévision. Demain, ils pourraient contribuer davantage, puisque là, ils payent zéro. Ils pourraient payer davantage par leurs impôts. En fait, c'est une répartition qui est plus juste pour l'ensemble de la société. Et ça, je pense qu'on y est tous attachés. Et je comprends ce que vous dites, Monsieur Vandel, et vos inquiétudes, parce qu'il y a du changement. Mais je veux dire... Mais je comprends.
Vous savez, je ne suis pas rétif au changement. Je suis dans une entreprise qui ne cesse d'évoluer.
Mais je sais,
et vous l'avez dit vous-même, vous ne pouvez pas pérenniser ces 3,8 milliards. C'est aussi simple que ça. Mais votre définition du transfert d'argent, moi, je veux bien l'entendre, mais la clé, c'est la pérennisation. On ne peut pas passer une année à 3,8 milliards et qui sait ce qui se passera derrière. C'est ça, la pérennisation d'un budget.
Mais c'est
pas
que...
vous un jour et quelqu'un d'autre le lendemain.
Je vais faire l'avocat de ce que vient de dire Céline Calvez. Elle disait que déjà, dans le cas de la redevance, le chiffre pouvait être modifié d'une année sur l'autre.
Mais bien évidemment. Mais
ça vous inquiète davantage si la redevance disparaît?
Parce que nous savons pertinemment que quand on commence à toucher à la redevance, on sait derrière que le budget de l'État va être quoi? Imaginez une crise comme on a aujourd'hui, que l'État n'ait plus les moyens de financer. C'est
alors,
ça dont on vous parle.
Il faut qu'on vous rassure sur un truc, c'est l'infra-annuel.
Je me suis retenu de ne pas vous interrompre, et pourtant c'est très tentant. Je dis simplement que la pérennisation n'étant pas possible, et vous l'avez dit vous-même, n'étant pas dans le projet de M. Emmanuel Macron, on sait pertinemment que c'est un moyen d'affaiblir le service public. Et ce n'est pas la première fois, il ne sera pas le premier. M. Hollande n'a rien fait pour le défendre, M. Sarkozy l'a affaibli en supprimant la publicité. Donc,
attendez, je vous interromps. Donc, c'est très fort ce que vous dites là. Vous pensez que c'est un moyen pour affaiblir à dessein le service public?
Mais parce qu'il n'aime pas le service public dans sa politique. Je ne parle pas ad hominem, je ne dis pas que M. Macron m'en veut. Je dis simplement que dans son corpus, on va dire, politique, le service public n'est pas sa tasse de thé, pour ne pas dire autre chose. Et bien France Télévisions, c'est pareil. Et Radio France, c'est la même chose. Il a fini par y venir parce que c'était une campagne électorale, mais on voit bien qu'il est plutôt du côté des télévisions privées. Et ce paysage-là, il est clairement établi. Et je termine, madame. Je suis très content d'entendre que c'est un bien public. Je suis sûr que vous le pensez en le disant. Je ne pense pas que M. Macron le pense.
Ah non, je peux vous assurer.
Le mot de la fin, Céline Calvez.
Eh bien, nous croyons dans l'audiovisuel public. Nous n'avons pas du tout de défiance et nous ferons en sorte que aussi les Français puissent y croire encore davantage.
La honte de la République, c'est lui qui l'a dit. En parlant du service public.
Vous y étiez ?
Oh bah écoutez, il n'a pas démenti.
Moi j'étais dans la salle.
Vous n'allez pas le confirmer, je vous comprends.
En fait, ce que ça traduit, c'est une véritable ambition, parce qu'on a besoin du service public. On a besoin d'information, on a besoin de création.
Me voilà rassuré, madame. Ouais.
Aujourd'hui,
on va continuer ce débat et je vais trancher. Il y avait des gens dans la salle qui ont entendu Emmanuel Macron prononçait ces mots et d'autres qui ont entendu le discours et n'ont pas entendu ces mots, donc on ne tranchera pas ici. Merci d'avoir été avec nous. Céline Calvez, vous êtes députée à l'ARM des Hauts-de-Seine. Serge Simineau, vous êtes délégué syndical du SNJ France Télévisions.
Merci de votre invitation.
Merci de votre franchise à tous les deux. Dans un instant, une journaliste service public, Maya Loquet. Après 8 saisons à la quotidienne sur la 5, elle présente désormais l'édition du week-end de Télématin, c'est la 2. Et là, elle a une nouvelle actu sur la 3. Il y avait la dictée de Pivot, maintenant ça s'appelle Tous prêts pour la dictée, c'est elle qui présente, elle nous raconte pourquoi, comment, à tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Maya Loquet.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste, présentatrice, après 8 saisons, le Larsen, vous entendez, c'est Maya Loquet qui met son casque, elle découvre les studios.
Excusez-moi.
Un peu. Après 8 saisons à la quotidienne de France 5, disais-je, vous présentez désormais Télématin, l'édition du week-end, c'est-à-dire le vendredi, le samedi, le dimanche sur France 2, avec Damien Thévenot avec vous. Et là, vous avez une nouvelle actu, ça s'appelle Tous prêts pour la dictée, ce sera ce samedi, le 21 mai à 16h15 sur France 3. C'est la dictée de Pivot, mais par Maya Loquet.
Oh là !
Non ?
C'est un sacré truc. C'est un hommage, en tout cas, à Bernard Pivot qui soutient.
Voilà. Moi, je ne l'ai pas vu, la dictée. Je vais vous dire pourquoi. Pour plusieurs raisons. Ça a été enregistré, on ne nous a pas envoyé le film. Et aussi, comme ça, on est sûr qu'il n'y ait pas de fuite.
Eh oui.
Parce qu'on était capable de passer un extrait, nous.
Bien sûr.
Sans y avoir trop réfléchi. Donc, il faut que cette bande reste secrète. Il y a quand même une bande-annonce. On va entendre la bande-annonce. Je ne sais pas pourquoi je parle comme si je faisais une dictée. On va entendre la bande-annonce.
Et si on jouait avec la langue française? Je vous propose de participer depuis chez vous à la grande dictée de France 3 et l'UMNI. Oserez-vous tenter le sans faute sur un texte d'Anne Berest lu par Gilles Lelouch depuis le manège à Reims? Grâce à nos duplex, vous pourrez tester vos connaissances avec les collégiens de Kourou en Guyane, mais aussi à Nice avec une famille au grand complet. Prêt pour relever le défi avec tous nos invités? À vos stylos!
On est prêt et vous avez fait tout le plan de l'interview. Vous êtes bonne en orthographe?
J'ai un peu oublié, je m'en suis rendu compte en préparant cette dictée, mais j'adorais les dictées.
Je me suis dit ça, le pluriel de bande-annonce?
Oh là là, mince, il y a des S partout.
Des bandes annonces,
ouais,
exactement.
Ouf, c'est bon.
Alors, quel sera le texte ? Ça ne sera pas la dictée de Mérimée. Et je dis, parce que pour qui ne connaît pas, la dictée de Mérimée, c'est quasiment impossible à faire.
Alors, je peux vous dire que c'est un texte, d'Anne Berest, extrait de son roman magnifique, La carte postale.
Prix 2021 Renaudot des lycéens. Et aussi le premier prix Goncourt en version américaine.
Exactement.
Les Américains se sont dit, on n'a pas de Goncourt. Ce sont des francophones, des francophiles là-bas. Et le premier prix Goncourt américain, c'est La carte postale d'Anne Berest.
Exactement.
Dont un extrait sera lu pour en faire votre dictée.
C'est ça. Et c'est l'histoire donc, de la famille. Anne Berest fait revivre ses ancêtres, dont certains sont morts en déportation. C'est un travail de mémoire. C'est aussi de très beaux moments lumineux dans ce texte-là. Et on en aura un des extraits. C'est une dictée qui est assez accessible. Donc, ce qui veut dire que les élèves de 5e ou de 4e peuvent aussi se tester. Ce qui veut dire aussi qu'il y aura un niveau d'exigence supérieur pour les plus grands et qu'il faudra viser évidemment sans faute.
Et oui, on est à quelques semaines du brevet des collèges. C'est pas un hasard. Les trois dernières éditions, c'était des textes de Kessel, de Jules Verne, de Pagnol. Pourquoi un auteur contemporain cette fois ?
Parce que pour mettre en avant justement la vivacité de la langue et la créativité de nos auteurs, c'était pour avoir évidemment le bonheur d'avoir la romancière avec nous en plateau, puisqu'Anne Berest sera en plateau avec nous samedi. C'était tout ce travail-là, et puis c'est une écrivaine, une romancière élégante qu'on voulait vraiment mettre à l'honneur.
Alors vous allez nous dire ce qui se passe en plateau, parce qu'il se passe plein de choses. Au passage, vous avez vu le tweet du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, au moment du bac ?
Non.
Vous êtes au courant ou pas ? On était le 10 mai, il a tweeté ceci. « Chères lycéennes, chers lycéens, à vous qui allez passer les épreuves de spécialité du baccalauréat, je vous présente tous mes vœux de réussite. » Et donc, « chères lycéennes, chères », il l'a écrit « C-H-E-R-S ». Il a fait une faute d'orthographe au premier mot.
Bah écoutez, on invite Jean-Michel Blanquer à faire la dictée samedi pour s'entraîner.
C'est l'acteur, réalisateur, scénariste Gilles Lellouche qui lit le texte. Pourquoi lui ? Comment ça s'est fait ?
On avait envie qu'il soit là.
Pourquoi pas
c'est,
vous ?
Parce que déjà, il fallait orchestrer un peu le plateau et il y a beaucoup de choses et beaucoup d'invités, les duplex aussi à faire vivre. Et puis en plus, il a une voix chaleureuse et il habite magnifiquement ce texte, Gilles Lellouche. Il y aura quelques surprises.
Alors justement, moi je suis très très en demande de ce qui va se passer. Je suis très curieux. Je vais citer le dossier de presse que j'ai lu attentivement. Préparez vos stylos et participez à la plus grande dictée de France dans une ambiance détendue et festive. C'est quoi une ambiance détendue et festive pour une dictée ? Est-ce qu'il y aura un DJ ? Est-ce qu'il y aura des cotillons ? Est-ce qu'il y aura du...
Non mais... Il y aura un public. On aura des duplex aussi avec Kourou en Guyane, au centre spatial. On est à Cagnes-sur-Mer dans une famille.
Pourquoi un duplex avec Kourou ?
Parce que toute la France est là et participe. Donc c'est aussi pour encourager toute la France à participer et Outre-mer aussi. Et on avait envie que l'Outre-mer soit présente dans cette émission. Et puis les régions avec Cagnes-sur-Mer.
Vous allez nous raconter ça, il y aura Mathieu Sapin.
Oui.
Alors je sais qu'il va dessiner la dictée.
Exactement.
Là encore, qu'est-ce que ça veut dire dessiner une dictée ?
Ça veut dire...
On a l'impression que les gens qui ont conçu le programme, ils étaient vraiment en fin de soirée, bien bien allumés, en se disant « Waouh, on va faire tout ce qui n'a jamais été fait
».
Je vous le reproche pas, mais au contraire.
Ça apporte... L'idée, c'est aussi de montrer qu'on révise le brevet des collèges, mais que la dictée, ce n'est pas forcément embêtant, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas forcément une épreuve, et que ça peut être joyeux, et qu'effectivement, une dictée, on peut aussi la dessiner, surtout que c'est un texte qui est très imagé et qui, je pense, va donner beaucoup d'inspiration à Mathieu Sapin.
Il y a la correction aussitôt après ?
Bien sûr, avec Nicolas Solé, qui est professeur de français. C'est sa deuxième année en tant que correcteur en chef, et donc il revient sur certains points du texte. Je précise aussi, alors on ne peut pas évidemment corriger la totalité de la dictée, mais la correction complète sera sur lumni.fr.
Je souris parce qu'on a déjà un ministre de l'Éducation qui se plante au premier mot. Et il n'y avait pas le professeur Rollin qui était prévu ?
Mais il sera là,
François
évidemment.
Rollin, il va faire quoi alors ?
Pimenter un peu cette dictée, c'est-à-dire compléter la correction, apporter des anecdotes et surveiller aussi les participants.
Ouais. Il y a aussi un duplex prévu d'une famille. Il y a un gars qui a filmé chez lui. Il s'est filmé chez lui avec ses amis.
Ouais.
J'ai trop envie de voir ça. J'ai trop envie que vous me racontiez ça. Maya Loquet avec nous, tous prêts pour la dictée. On est juste prêts à continuer Culture Média. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de la journaliste présentatrice Maya Loquet, tous prêts pour la dictée. Ce sera samedi sur France 3 à 16h15. C'est vous qui présentez l'émission,
oui.
C'est pas vous qui faites la dictée, ce sera Gilles Lellouche. On l'a dit, la dictée a déjà été enregistrée. Vous avez tourné dans un très bel endroit.
Oui, qui est le Cirque de Reims, qui est un cirque en dur, un petit peu comme le cirque d'hiver à Paris, si vous voulez, et qui est un lieu absolument magnifique. Donc on est sur la piste et on on a mis dessus une estrade avec un bureau de prof, donc je me prends vraiment pour une prof.
150 collégiens dans la salle, ils ont trouvé comment ils ont jugé le niveau de la dictée?
Écoutez, alors effectivement c'est une dictée qui nous semble accessible, malgré tout il y a des pièges, je peux vous
on
le dire.
On les voit la faire en live, comme au chiffre des lettres, le public fait les calculs.
Évidemment, oui, ils ont tous eu leur petit... Voilà, tout le monde a participé, et il y aura des surprises.
La moyenne de la salle, c'était quoi?
Ah, on n'a pas calculé.
Oh là là, c'est comme
que
chez Jacques Martin.
Non, c'est que du déclaratif. C'est que du déclaratif.
Tout le monde a gagné.
Un peu. Mais non, l'idée, c'est encore une fois, c'est de se faire plaisir et de s'amuser. Donc, pas relever les copies.
Il y a quelque chose qui m'a vraiment étonné. Il y a un duplex annoncé à Cagnes-sur-Mer avec un animateur de France 3 oui. Provence-Alpes-Côte d'Azur qui s'appelle Éric Charret. Mais c'est dans la maison. Est-il annoncé?
C'est ça.
C'est vraiment chez lui?
Bah oui.
Mais vous imaginez faire un duplex en direct de chez vous?
Mais c'est chouette. Je trouve ça formidable.
Dites pas ça, parce que les producteurs vous entendent et ils vont vous proposer, ils vont dire, tu l'as dit à Europe 1, tu vas faire un duplex chez toi,
qu'à l'époque,
de ton salon.
Vous évoquiez la quotidienne à l'époque, alors, durant le confinement, on faisait les duplex et on faisait l'émission depuis notre salon. Alors
oui,
on n'est plus en situation sanitaire,
blanc,
évidemment.
Voilà, avec des gens qui mettaient des livres dans leur bibliothèque pour faire croire qu'ils étaient cultivés.
Ah oh, oui, bah, peut-être.
On s'en souvient.
Non, mais là, effectivement, c'est finalement à l'image des téléspectateurs qui nous regarderont et qui participeront à cette dictée. L'idée, c'était de se dire, on est chez vous parce que vous allez vous aussi faire votre dictée à la maison, comme moi je la faisais avec mes parents et mon frère quand j'étais enfant, la dictée de Bernard Pivot.
En amont de la diffusion, l'UMNIC et l'offre éducative de l'audiovisuel public va proposer de réviser les figures de style avec une web-série qui est animée par un comédien humoriste qui s'appelle Roman Dauduic. 15 épisodes d'une minute 30. On va entendre un extrait, il est question de métonymie.
Imaginons que vous alliez boire un verre avec la personne de votre choix.
C'est ce qu'on appelle une métonymie.
Non, c'est ce qu'on appelle un date. De quoi tu parles?
On ne boit pas un verre, mais le contenu du verre. La métonymie est une figure de style de substitution dans laquelle on remplace un terme par un autre terme qui lui est lié par un rapport d'identité. La cause remplace l'effet, le contenant remplace le contenu, etc.
Ok. Merci Lumnix, hein, même si encore une fois, on t'avait rien demandé. Alors... on va prendre un autre exemple, imaginons plutôt que vous allez vous faire un petit ciné, ça c'est sympa.
Sauf si le rendez-vous a lieu entre deux architectes, c'est encore une métonymie, on va voir un film au cinéma. On ne va pas construire un cinéma, subtilité.
Mm-hmm. C'est bon, t'as fini?
Vous connaissez ce terme, métonymie?
Oui, je l'avais un peu oublié, j'avoue. Hein, voilà. Mais...
et quel rapport vous entretenez avec l'orthographe? Vous avez dit que vous aimiez beaucoup ça, et plus généralement les études?
Alors les études, moi j'ai fait des études de lettres modernes, mais j'étais danseuse à la base, je me préparais à commencer très tôt une carrière, j'avais envie de travailler. Donc durant mes études de lettres modernes, j'ai commencé des stages à Sud-Ouest, voilà, puis en télé, et finalement j'ai pas passé mes diplômes, mais j'ai continué à travailler.
Je veux dire pourquoi je vous en parle, parce que vous avez dit dans une interview, j'ai le syndrome de l'imposteur.
C'est vrai, mais je crois justement parce que je n'ai pas eu ces diplômes qui sont encore aujourd'hui des sésames. Et j'ai appris sur le tas, et c'est vrai que j'ai toujours un peu ce syndrome de l'imposteur.
J'en viens à Télématin, nouvelle formule depuis la rentrée. Tout a été changé, du sol au plafond, les animateurs, le conducteur, le décor. Vous présentez l'émission, vous, les vendredis, samedi, dimanche, en duo avec Damien Thévenot. Du lundi au jeudi, c'est Julia Vignali en duo avec Thomas Soto.
Oui.
Ça a bien marché. Ça avait démarré sous les critiques.
Bon, c'est normal, vous savez, c'est quand même une émission qui existe depuis 35 ans. Donc au moment d'opérer des changements, il y a toujours cette période d'incertitude. On attend de voir
vous l'avez pris
ce qui va se passer. Oh ben, on s'est dit, on s'est simplement dit, on travaille, on écoute, on entend, on travaille, on progresse. Et je crois que les audiences nous encouragent aujourd'hui, parce que ça marche bien.
Et même quand vous avez remplacé Thomas Soto fin décembre, vous avez affolé les compteurs. Vous étiez en duo avec Julia Vignali. Audience explosive pour Julia Vignali et Maya Loquet.
Oui, mais audience explosive pour Thomas et Julia la semaine dernière, puisqu'ils ont réalisé aussi une moyenne historique sur cette rentrée. Donc tous, on est les quatre animateurs, mais aussi les équipes de chroniqueurs qui sont avec nous, dont certains chroniqueurs sont là depuis longtemps. Et je crois qu'on forme une belle équipe et qu'on est heureux d'avancer tous ensemble.
J'ai complètement oublié de vous demander comment on écrivait métonymie.
Non. Vous avez bien raison d'oublier.
Je voulais avoir la réponse, mais on n'a pas le temps.
Ah,
il faut s'arrêter là.
C'est dommage.
Dommage. Ça s'arrête là. Maya Loquet, un grand, grand merci.
Merci
tous
à vous.
Tous prêts pour la dictée. Ce sera samedi, donc le 21 à 16h15 sur France 3. Texte lu par Gilles Lelouch et avec de l'ambiance au bar.
Promis.
Maya Loquet. Merci d'avoir été avec nous, Maya.
Merci beaucoup.
Culture Média continue après les infos de 10h. Vous allez retrouver les télescopages de Bruno Donnet. Il s'est intéressé aux bandes annonces.
mais il m'a demandé de pas trop en faire pour la bande-annonce de sa propre chronique. Vous allez entendre, il a des sons absolument stupéfiants. Notre invité, c'est le romancier, auteur dramatique, scénariste Didier Van Kovelaert. On parle de son nouveau roman, ça s'appelle Une vraie mère, ou presque. Et puis dans Les Indispensables, on continue de parler, comme toute cette semaine, de la 3e édition du prix littéraire Europe 1 GMF qui sera décerné le 9 juin prochain. Cette semaine, 5 romans en lice. Nicolas Caro nous présente l'un des 5 livres, évidemment. Et puis, Olivier Benkemoun nous parle du nouveau film de Michel Hazanavicius qui a été projeté hier lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Ça sort aujourd'hui, ça s'appelle Coupé. On ne coupe pas, puisqu'en fin d'émission, ce sera Marc-Antoine Lebray qui sera avec nous. Quel programme, à tout de suite sur Europe.